nous avons quelques absents. L'opposition nous a informé qu'il ne serait pas présent, donc on se trouve un petit peu solitaire, mais enfin nous resterons dynamiques quand même. Hein. Voilà, je voulais le signaler. Avant de démarrer, je demande à Christiane David de bien vouloir assumer le poste de secrétaire de séance. Je te remercie. Et de bien vouloir procéder à l'appel. Voilà. Merci bien. Non, laisse-la. Allez, démarre.
Bayon de Noyer, Yves. Biel, Marie-Hélène. Bresson, Laurent, représenté par Marie-Hélène Biel. Mérigot, Hélène. Mathieu, Stéphane.
Présent.
Gomez, Eliane.
Présent.
Royer, Christian.
Présent.
Donc David, Mathieu, Christian, présent. Patrick Gay. Absent. Donc, il va arriver. Louis-Olivier. Leclerc, Jean-François.
Présent.
Tavernari, Roland.
Présent.
Fortuné, Françoise, représentée par Yves Bayon de Noyer. Nicolas, Jacques. Blanès, Thierry, représenté par Patrick Gay, ben, qui va arriver. Donc, Villon, Patrick. Vedel, Chantal. Lecomte, Florence. Gomez, Lionel. Andrzejewski, Renaud, Florence. Pereira, Elisabeth. Rémi, Laurent.
Présent.
Bourdelin, Sylvie. Schneider, Estelle. D'accord. Bouillin, Marine. Olivier, Jacques, absent. Longeville, Véronique, absent. Herrero, Michel, absent. Arnaud, Catherine, absente. Bon, ils se sont excusés de ne pas pouvoir.
Très bien. Donc, merci. Le conseil municipal, donc, peut valablement délibérer. Donc, en information, je voulais vous dire que nous avons 13 délibérations aujourd'hui. Il y en a 4 qui concernent des aspects, je dirais, management ou sociaux, concernent les agents de la commune. Et il y a 2 dossiers qui concernent la voirie. Et puis, les autres sont des délibérations qui concernent le règlement intérieur, la maison Saint-Roch, le recensement de la population qui va démarrer au mois de janvier, ainsi que des conventions sur la scène nationale et l'attribution d'une subvention exceptionnelle au centre d'animation. Voilà, globalement, donc ça ne devrait pas être un conseil trop long. Ça rassure les amis du public et la presse qui n'aiment pas les conseils trop longs. Donc je soumets à votre première approbation le compte-rendu de la dernière réunion du conseil municipal qui s'est tenue le 15 juillet dernier. Donc vous avez reçu ce compte-rendu. Avez-vous des remarques, des objections, des modifications? Très bien, est-ce qu'on peut le considérer comme approuvé? Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Donc je vous remercie. Alors le premier point qui n'est pas une délibération, qui concerne les décisions du maire, c'est-à-dire l'ensemble des décisions qui ont été prises depuis le dernier conseil municipal sous mon autorité. Donc je vous informe qu'il y en a 25 de décisions, donc c'est quelque chose d'important, mais nous avons 2 mois complets, je dirais, d'activité, et en plus l'activité a été importante puisqu'un certain nombre de décisions ont concerné notamment des contrats pour les activités, je dirais, lors de la fête nationale, les activités du Bourdis, etc. Donc la décision la plus importante en termes de montant concerne l'acquisition d'un véhicule neuf pour le centre technique municipal pour un montant de 28 455 euros, puisque nous avons été amenés à acheter un véhicule Renault, modèle Kangoo Express, pour tout vous dire, avec benne hydraulique. Voilà, pour ce montant-là de 28 000. C'est le montant le plus important. Les autres décisions sont entre 3 000, 1 000 euros, etc. Donc, il y en a 23. Donc, avez-vous des questions à poser sur cette décision du maire, sachant que ce n'est pas soumis à votre approbation, puisque j'ai une délégation pour pouvoir prendre ce type de décision. Pas de questions particulières, donc je vous remercie. Le point suivant traite de la modification du règlement intérieur du Conseil municipal. Donc nous avons adopté le 20 mai dernier un règlement intérieur. Comme il se doit, nous devons l'adresser en préfecture qui en contrôle la légalité, hein, ce qui est tout à fait dans la norme. Et les services de l'État nous ont demandé d'apporter quelques compléments d'information sur notamment les droits d'accès aux documents pour les élus et enfin sur ce qu'on appelle la liberté d'expression de l'opposition. Bon, j'espère que la presse ne casse pas les actifs de la commune, hein, monsieur Morlat. Je compte sur vous, hein. Donc, nous avons pris en compte ces demandes et je vous soumets la modification, si vous voulez, ou les compléments de rédaction. Le premier, c'est sur l'article 4 qui traite de l'accès au dossier pour les élus. Donc, je vous le lis. Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions suivantes. Le conseiller devra faire une demande écrite adressée au maire 36 heures avant la date de consultation, hors le samedi, dimanche et jours fériés. Les documents pourront être consultés à la mairie uniquement aux heures d'ouverture des services administratifs concernés. Donc c'est une précision sur cette consultation. Le deuxième traite de la disposition qui est relative, je dirais, à la communication pour les conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité municipale. Et donc on propose la rédaction suivante. La répartition de l'espace d'expression réservé est fixée de la manière suivante. Pour le bulletin d'information générale, qui s'appelle « Lettre d'information », que vous avez vu, il y a déjà un numéro qui est sorti. Le deuxième numéro va sortir sous une dizaine de jours maximum, de plus de 4 pages. Et la revue municipale Le Beffroi, que vous connaissez bien, une page entière sera consacrée au droit d'expression des groupes avec une répartition proportionnelle au vote, soit les 2/3 réservés au groupe Agir pour le tort. Et là, on précise le nombre de signes. Vous voyez qu'on est très précis dans la commune, 3466 signes, et 1/3 au groupe dynamique et solidaire de 1733 signes. Donc l'article devra respecter la typologie générale de la revue et sa charte graphique. Si la lettre d'information, qui est de 4 pages, l'espace d'expression sera ramené à une demi-page, puisque nous prévoyons de pouvoir faire des lettres de moins de 4 pages. Avec la même répartition, les 2/3 pour le groupe Agir pour le tort, et là c'est 1733 signes, et 1/3 pour dynamique et solitaire, soit 866 signes. Le responsable de la communication devra prévenir la liste d'opposition au moins 3 semaines avant la date d'impression du bulletin municipal, le Beffroi, et de la lettre d'information, le Tort Info, pour un retour des éléments au plus tard 8 jours avant cette date, qu'on ait le temps de faire la clôture. Concernant le site internet officiel de la commune, puisque c'est aussi un espace de communication, une page sera réservée au droit d'expression de l'opposition, sera insérée entre autres dans cet espace l'article de l'opposition figurant sur le support écrit d'information générale. Donc voilà ce que nous proposons, mais avant de délibérer, je vous laisse la parole. Y a-t-il des questions sur ce point-là? Est-ce que ceci vous paraît clair? Non. Donc, je vous propose de délibérer donc sur la modification de ce règlement sur ces deux points. Y a-t-il des abstentions, des oppositions? Donc, je vous remercie. Donc, la délibération suivante traite de l'immeuble communal cadastré section AD, qui s'appelle l'immeuble Saint-Roch. Et donc, nous, le conseil municipal doit délibérer sur la résiliation du bail emphytéotique qui a été signé en 2012 et qui avait été signé avec l'Union Compagnonique. Alors, je vous fais un résumé rapide quand même de cette opération. Donc, en 2012, la collectivité du Thor, la commune, d'une part, et l'intercommunalité, d'autre part, ont négocié avec l'Union Compagnonique le fait de leur une convention au terme de laquelle l'Union Compagnonique restaurerait la maison Saint-Roch, qui est située à côté de l'église, hein, après le pont de Douzamont, et deuxièmement, l'exploiterait pour en faire une maison d'apprentissage aux métiers de bouche et notamment des productions provençales. Donc tout ceci a été, je dirais, validé. Au terme de ces conventions, l'Union Compagnonique percevait d'abord une subvention de la part de l'intercommunalité et deuxièmement une subvention de la part de la commune. Et d'autre part, la commune s'est engagée à signer un bail emphytéotique pour 18 ans, moyennant globalement l'euro symbolique, hein, je le résume, auprès de l'Union Compagnonique qui pouvait donc exploiter ce bâtiment. Donc les choses, je dirais, ont avancé. Dans la convention, il était prévu que 50% de la subvention de l'intercommunalité serait versée à l'Union Compagnonique dès l'obtention du permis de construire et dès la forclusion des droits de recours, c'est-à-dire 2 mois après. Donc tout ceci a été réalisé, le permis de construire a été obtenu, donné par la mairie. Il n'y a pas eu de recours de tiers, et donc l'Union Compagnonique aurait dû démarrer ses travaux. Donc, dans le même temps, elle a fait savoir, d'une part, surtout à l'intercommunalité, qu'elle ne pourrait pas démarrer tant qu'elle n'obtiendrait pas une subvention complémentaire du Conseil régional pour réaliser ses travaux. Donc, tout ceci s'est passé durant l'année 2013. Et puis, donc, moi-même... J'ai reçu, après donc l'élection et ma nomination comme vice-président de l'intercommunalité, j'ai reçu l'Union Compagnonique pour savoir un peu où en était leur dossier, où ils ont insisté sur le fait qu'il fallait qu'ils obtiennent cette subvention de la région, et ils ont obtenu un courrier comme quoi ils n'obtiendraient pas la subvention de la région. Mais je n'ai eu aucune autre information sur l'utilisation de la somme de 185 000 euros qui avait été versée par l'intercommunalité. Donc, en mettant un peu la pression sur le trésorier, on apprend qu'un nouveau trésorier a été désigné. On apprend ceci dans le cours du mois de juillet. Et il nous informe que la somme de 185 000 euros a été détournée par le dit trésorier. À savoir qu'il a absorbé, pompé, excusez-moi l'expression, détourner sur ses comptes bancaires l'intégralité de la somme. Donc, bien évidemment, l'Union Compagnonique a porté plainte. Les choses sont pas très, je dirais, très, très nettes, parce que le président de l'Union Compagnonique aurait dû solliciter des comptes rendus, je dirais, financiers, la tenue, je dirais, de comptes de résultats, faire un suivi de la trésorerie, alors qu'il a entièrement délégué à son trésorier, sans faire de contrôle. Et donc, pendant plus d'une année, il ne s'est pas rendu compte qu'il avait été spolié et que le compte de l'Union Compagnonique est tombé à zéro. Alors, inutile de vous dire que d'abord, nous émettons l'intercommunalité tout type de réserve sur les suites que nous donnons. Donc, nous avons exigé le remboursement auprès de l'Union Compagnonique, mais qui n'a pas un sou en caisse. Donc, nous allons... je dirais, faire en sorte que soit concernée également l'Union Compagnonique nationale et pas que l'Union Compagnonique locale, ainsi que le trésorier fautif et aussi le président, puisque nous estimons que le président est en tort. Et le président, pour votre information, il est devenu secrétaire général de l'Union Compagnonique nationale. Donc nous sommes quand même très étonnés du fonctionnement de cette Union Compagnonique. Bon, je veux préciser également que je pense que des carences importantes ont eu lieu aussi au sein de l'intercommunalité, qui a été mise sous la pression du pouvoir politique, hein, les salariés, pour faire en sorte que ça soit versé, et sans que toutes les précautions qui normalement sont prises dans ce type de versement, que les précautions soient prises. Je vois au sein de notre collectivité, si on est amené à verser des subventions, ben on vérifie que, surtout dans ces montants-là, bon, ça ne nous arrive pas, mais même des montants inférieurs, on vérifie qu'il y a eu des engagements de dépenses, que les choses sont réalisées sérieusement, on demande des comptes de résultats, etc. Enfin, bon, je précise, pour pas qu'il y ait du tout de confusion, la collectivité du Thor, la commune du Thor, n'a rien versé. Hein, là, c'est au niveau de l'intercommunalité. Et donc, bien évidemment, j'ai demandé à ce que le bail emphytéotique qui existe soit résilié. Et donc, le nouveau trésorier, le nouveau président l'ont accepté. Et nous, la commune, pour que nous résilions ce bail, il faut que le conseil municipal m'y autorise. Donc voilà la raison pour laquelle je soumets à votre approbation le fait que je puisse enclencher la procédure de résiliation de ce bail emphytéotique. Et donc que ce bâtiment revienne l'entière propriété de notre commune. Avez-vous des questions à poser sur cette étrange histoire ? Enfin, elle est triste, je le dis, parce que c'est quand même 185 000 euros. Juste pour l'information, notre commune pèse à peu près 30% de l'intercommunalité. Donc, ça veut dire que c'est environ 60 000 euros, enfin, à la louche, qui viennent des deniers des Thorois. C'est 186 000 euros, il y a environ 60 000 qui viennent des deniers des Thorois. Voilà. Bon. J'ai demandé, d'ailleurs c'est mis dans le dernier compte-rendu du bureau de l'intercommunalité, à ce que les procédures d'attribution des subventions soient revues à l'intercommunalité, qu'elles soient écrites, validées par le bureau, et que toute dérogation à ces procédures fasse l'objet d'un vote en bureau. On peut être amené à ne pas respecter une procédure parce qu'il y a une urgence, il peut y avoir une condition particulière, mais il faut que ce soit absolument le bureau et non pas ni le président, ni les agents de la collectivité qui peuvent déroger à ça. Et donc, à mon étonnement, il n'y avait pas de procédure écrite de validation du versement des subventions à l'intercommunalité. Donc, je pense que nous avons collectivement un travail important à réaliser à l'intercommunalité. Voilà. Donc, je soumets à votre validation le fait que je puisse mettre un terme au bail précité, hein, c'est-à-dire sur le bail emphytéotique. Y a-t-il des abstentions, des oppositions ? C'est dommage que l'opposition n'ait pas été là, parce qu'elle aurait peut-être voté pour. Hein. Bon. Donc, je vous remercie de ce vote unanime. Le point suivant traite de la création de postes d'agents contractuels pour assurer le recensement de la population qui va démarrer au mois de janvier. Donc vous savez que tous les 5 ans, nous avons un recensement. Et pour effectuer ce recensement, bien évidemment, la coordination sera faite sous la direction d'un agent de la commune, mais nous recrutons un certain nombre d'agents. Donc il faut que ça soit validé en conseil municipal, ainsi que leur rémunération. Donc je demande à Marie-Hélène Biel de bien vouloir nous commenter cette délibération. À Hélène Mérigot de bien voir nous commenter.
Je m'appelle Marie-Hélène.
Cette délibération.
C'est pas grave.
Donc, à ma gauche et elle est à ma droite.
Donc, oui, voilà, comme monsieur le maire vient de vous le dire, l'opération de recensement va se dérouler du 15 janvier au 14 février 2015. La commune du Thor a tout d'abord nommé Madame Myriam Beck, qui est agent à l'accueil de la mairie, en qualité de coordinateur communal. C'est donc elle qui sera chargée de préparer le recensement et de suivre son déroulement. Elle mettra en place la logistique, organisera la campagne locale de communication, la formation des agents recenseurs et les encadrera. Et elle sera également l'interlocuteur de l'INSEE. Les agents recenseurs présents sur le terrain, qui seront donc au nombre maximum de 20 agents, ça reste à déterminer, mais bon, c'est 20 agents maximum, devront se présenter dans chaque logement pour réaliser les opérations de collecte de renseignements. Ils auront chacun un secteur prédéfini pour procéder à la prospection. Les foyers auront deux possibilités cette année, soit remplir le questionnaire remis par l'agent, qu'il récupère ensuite, soit de le faire directement en ligne via Internet pour ceux qui le souhaitent. Il est donc nécessaire pour nous de créer ces emplois d'agents recenseurs et de définir les modalités de recrutement et de rémunération dans le cadre de ce prochain recensement. Donc, pour information, les éléments de rémunération de ces agents comprennent une rémunération pour la formation, puisque c'est des gens qui ne font pas ça toute l'année, donc une première formation, une deuxième formation, des rémunérations pour frais de dépôt et de collecte de bulletins, et une rémunération sur les tournées de reconnaissance, pour que chacun soit bien sûr de faire son secteur complètement, ainsi qu'un remboursement forfaitaire de frais de déplacement. Et bien sûr, les crédits correspondant à cette charge seront inscrits aux charges personnelles et frais assimilés du budget primitif 2015.
Monsieur Bayon. Merci. Il faudra d'ailleurs penser, Laurent, à ce que dans le prochain Le Tour Info, on parle de ce démarrage du recensement de façon à ce que la population puisse faire un bon accueil aux agents. Voilà. Donc, avez-vous des questions sur ce point ? Des interrogations ? Non ? Ça vous paraît clair ? Très bien. La dernière fois, je me suis renseigné, ça s'était très bien passé. Donc, globalement, on pense qu'on va recruter une partie des gens qui ont déjà fait le travail, mais il y aura sûrement des nouveaux. Donc, ça devrait également bien se réaliser dans la période de un mois. Voilà. Donc, à la fin, j'aurai le résultat de recensement, mais que je ne pourrai pas vous communiquer, puisque je suis engagé à la confidentialité pendant 2 ans. C'est comme ça. Voilà. Et moi, je pense qu'on devrait être au-delà de 9000. Voilà mon pronostic. Donc, je soumets à votre délibération. Y a-t-il des abstentions, des votes contre ? Donc, je vous remercie. Nous abordons maintenant 4 dossiers qui concernent un peu les conditions de représentation et de rémunération des agents de la commune. Donc, le premier, c'est la composition du comité technique, qui s'appelait préalablement comité technique paritaire, et donc le maintien de la parité. Alors, pour votre information, une loi de 2010 a procédé, je dirais, à ce qu'ils ont appelé la rénovation du dialogue social, c'est-à-dire qu'ils ont prévu qu'au sein des collectivités territoriales, ce qui était baptisé comité technique paritaire ne soit plus paritaire. Et donc, il faut que ça soit une délibération du conseil municipal qui accepte que ça soit paritaire. Et quand je dis paritaire, c'est le même nombre de représentants du côté employeur, c'est-à-dire du côté de la mairie, que des représentants du côté employé. Et donc, si le conseil municipal ne délibère pas, ça ne sera pas paritaire. Donc, ça sera un comité dans lequel il y aura 5 représentants du côté des salariés, des agents de la commune, et un représentant qui est le maire. Donc ça veut dire qu'on va débattre, mais s'il y a un vote, ce vote ne s'impose à personne. Alors que s'il y a un comité qui fonctionne de façon paritaire et qu'il y a un vote, c'est-à-dire que ce n'est pas une répartition équivalente, il y a un vote sur une décision, globalement, ça veut dire que et les agents de la commune et le représentant de la mairie ont voté la même chose. Et donc, ça s'impose un peu, je dirais, ne serait-ce que moralement, au maire, puisque je vois pas comment il aurait pu voter en faveur d'une chose au comité technique et ensuite ne pas le faire approuver en conseil municipal. Donc, nous recommandons fortement le fait que ce comité technique soit paritaire. Et la deuxième chose, nous avons à décider du nombre d'agents. Sachant que notre collectivité, qui regroupe là le CCAS plus la commune, c'est-à-dire 166 agents, de par la loi, le nombre de représentants doit être au minimum de 3 et au maximum de 5. Et donc, nous recommandons à ce que ce soit le nombre de 5 qui soit retenu, comme c'est actuellement. Voilà. Donc nous l'avons déjà discuté en comité technique paritaire, celui-là, qui a eu lieu il y a à peu près 3 semaines, 1 mois. Et donc les agents représentants, je dirais le personnel, sont aussi d'accord pour que ça soit un nombre de 5. Donc nous avons ces 2 décisions à prendre. 1, que notre comité technique soit paritaire. Et 2, que le nombre d'agents représentant le personnel soit au nombre de 5 également. Et on doit le faire, bien évidemment, avant les élections qui vont avoir lieu le 5 décembre prochain. Donc y a-t-il des questions sur ce point-là ? On en avait un peu parlé au dernier conseil municipal, vous vous en souvenez, puisqu'on avait décidé de le faire collectif entre CCAS et communes. Ça va ? C'est clair ? Donc je vous demande de bien vouloir, délibérer sur le fait que le nombre est fixé à 5 et que notre comité technique soit de façon paritaire. Y a-t-il des abstentions, des oppositions ? Donc je vous remercie. Nous avons exactement la même décision pour la délibération suivante qui traite du comité d'hygiène et sécurité, à savoir que nous avons à décider qu'il soit paritaire et nous avons à décider du nombre de gens qui les représentent. C'est le comité d'hygiène et sécurité et des conditions de travail, qui sera donc, élu dans la foulée de la constitution du comité technique. Donc je ne vous reprends pas toute mon argumentation, puisque c'est la même, et je ne veux pas être lassant et redondant. Voilà. Néanmoins, avez-vous des questions sur ce comité d'hygiène, CHSCT ? Non ? Bon, donc je soumets à votre vote le fait que le nombre est fixé à 5 titulaires, que nous soyons dans un statut de parité numérique. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Donc je vous remercie. Le dossier suivant traite également des aspects, sociaux concernant les agents et qui traite du régime indemnitaire des agents de la collectivité en cas d'absence du service. Donc la norme, c'est-à-dire la loi, dit que s'il n'y a pas de délibération du conseil municipal, l'ensemble des primes, presque l'ensemble des primes, qui sont alliées, à la rémunération, ne sont pas versés en cas d'absence des agents de la commune, sauf pour les congés annuels, sauf pour la maternité, paternité et l'adoption, sauf pour les congés maladie de plein traitement, sauf pour l'accident de travail ou la maladie professionnelle, ou le temps partiel thérapeutique. Mais pour toutes les autres raisons, les primes tombent. Un certain nombre de collectivités, si vous voulez, ont pris des décisions sur le fait que les primes vont suivre le rythme du salaire. Donc le salaire, lui, ne tombe pas. Il tombe à moitié au bout de 3 mois. Et donc, ce que nous proposons, c'est que le traitement des primes suive exactement le même traitement que le salaire. Je le dis en passant, ça a été plus ou moins pratiqué dans la commune, mais bon, c'était pas... Donc en réalité, ce que nous voulons par cette délibération, c'est d'abord une avancée sociale et deuxièmement sécuriser la collectivité et les agents sur le fait que la prime va suivre le traitement du salaire. Pour votre information, nous avons pris cette décision exactement la même au CCAS hier en conseil d'administration et donc je propose que cette même, délibération soit prise ici même en conseil municipal et s'appliquant donc à l'ensemble des agents. Voilà ce que je soumets à votre délibération. Ça peut vous paraître un peu compliqué parce que le système des primes est très complexe dans la fonction publique territoriale. Elles sont très nombreuses, elles ont tous des codes incompréhensibles pour quelqu'un qui n'a pas son petit dictionnaire. Bon. Voilà. Avez-vous des questions sur ce point-là ? Des interrogations ? Non ? Donc je soumets à votre délibération l'adoption de cette... l'adoption de cette délibération. Y a-t-il des votes, des abstentions, des votes contre ? Très bien, je vous remercie. Je pense que les représentants du personnel qui sont dans la salle doivent respirer. La délibération suivante traite également d'un aspect, je dirais, management et social, c'est la création d'un poste d'apprenti au sein de la collectivité. Donc, quand je suis arrivé aux affaires, là, il y a 3, 4, 5 mois, là, j'ai dit, tiens, ça serait bien que dans un certain nombre de services, nous puissions embaucher des apprentis. Parce que quand on embauche un apprenti, ça a un double effet, ou même un triple effet. Le premier effet, c'est que ça crée un poste à un jeune qui est en train de se former, mais en même temps qui est accompagné. Bon. Deuxièmement, ça dynamise les services, parce que on nomme un tuteur, et c'est toujours intéressant d'avoir un jeune qui arrive, donc on le forme, on l'accompagne, et je trouve que c'est très positif. Et puis enfin, pendant qu'il est présent au poste, il remplit une vraie tâche pour laquelle il reçoit une rémunération, qui est certes réduite par rapport à un salaire complet, mais quand même, il a une rémunération et il remplit une... Et on m'a dit, mais ça, c'est pas possible, parce qu'il faut qu'une délibération passe en conseil municipal. Et donc, nous allons délibérer du fait de pouvoir créer au sein du service Espace Vert un poste d'apprenti, puisque nous avons identifié un jeune qui a déjà travaillé dans la commune là, cet été dans le cadre d'un contrat de saisonnier qui donne entière satisfaction. Et donc, je vous propose que nous puissions donc conventionner avec lui et avec son établissement de formation une convention comme quoi nous pouvons l'accueillir et l'accompagner pendant, je crois que c'est 2 ans. Voilà, une formation de 2 ans. Donc, ça sera le premier apprenti accueilli dans la commune. Et je pense que dans d'autres services, qui peuvent être des services administratifs ou des services techniques, on doit pouvoir réaliser ce type de, je dirais, de contrat. Et ben, c'est ensuite l'apprenti peut postuler dans la commune, hein, s'il s'y sent bien, il s'est fait connaître et les choses se passent bien. Moi, je peux vous dire historiquement que dans l'entreprise, il y en a même qui sont autour de cette table, certains sont rentrés chez moi comme apprenti, aujourd'hui occupe des postes très importants. Voilà. Avez-vous des questions, des interrogations sur ce commentaire sur le poste d'apprenti? Bon. Donc, je soumets à votre délibération. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Très bien. Et donc, l'apprenti qui sait que ça passe en délibération m'a chargé de vous remercier pour votre décision. Nous avons 2 délibérations ensuite qui traitent des aspects de la voirie communale du hameau des Vinières. Donc la convention avec le conseil général, monsieur Christian Royer est aux manettes. Vous avez la parole.
Bonjour. Bonjour. Donc par courrier en date de novembre 2013, monsieur le président du conseil général de Vaucluse a sollicité monsieur le maire du Thor dans le but de verser dans le domaine public communal les sections de route départementales suivantes pour une longueur totale de 790 mètres. La section délaissée de la RD 900, qui est l'ex-RD 22, située au sud de la commune du Thor, dans la traversée du hameau des Vinières, ainsi que la section de la RD 98, qui est comprise entre la RD 900 et la section délaissée de la RD 900 ex-RD 22. Ceci, donc, pour les Vinières, c'est la traversée des Vinières et la petite route qui vient du Thor et qui va vers les Vinières, sur une petite portion. Ainsi que l'aire de retournement et d'un arrêt de bus situé à l'intersection donc de ces deux routes, l'RD 98 et l'RD 900. À cet effet, donc, il convient que le conseil municipal acte le classement dans la voirie communale les sections de route concernées et autorise monsieur le maire à signer la convention portant remise des sections de route départementales à la commune du Thor. Ce transfert de voirie est la conséquence de la réalisation, il y a plus de 20 ans, de la déviation du hameau des Vinières. De plus, afin d'améliorer la sécurité des usagers de la route, le conseil général de Vaucluse vient d'achever la réalisation du carrefour girantoire au niveau de la route départementale 900. Enfin, le département finalise la construction d'une aire de retournement et d'un arrêt de bus qui permettra l'accessibilité des personnes à mobilité réduite aux normes en vigueur. Donc, il convient d'en délibérer.
Merci, Christian. Avez-vous des interrogations ? Alors, il est sûr que c'est une délibération un peu a posteriori, parce que tout un chacun sait que le rond-point existe. Hein.
Oui.
Voilà. Donc, il n'a pas été inauguré officiellement, je ne crois pas encore. Oui. Bon, mais il existe. Et on tourne autour. Hein. Donc, je soumets à votre délibération d'accepter le classement dans la voirie communale des sections de route départementale suivantes. Donc, la section délaissée de la RD 900, située au sud de la commune du Thor dans la traversée du hameau des Vignères. La section RD 98, comprise entre la RD 900 et la section délaissée de la RD 900. Et l'aire de retournement est d'un arrêt de bus situé à l'intersection de la RD 98 et de la RD 900. Et que vous m'autorisiez à classer, à signer la convention correspondante à ce classement dès l'achèvement des travaux qui va arriver incessamment sous peu. Y a-t-il des abstentions, des oppositions? Donc, merci pour les Vignères. Donc, le dossier suivant traite globalement de la même chose, sauf que là, ça concerne l'entretien de ce rond-point. Christian?
Donc, le Conseil général de Vaucluse donc, a finalisé la réalisation d'un carrefour giratoire donc, à l'entrée du hameau des Vignères, comme on l'a vu tout à l'heure. Ce carrefour comporte un anneau central avec une collectivité paysagère. La commune, d'un commun accord avec le Conseil général de Vaucluse, convient d'entretenir cet espace de la même façon qu'elle réalise sur les carrefours giratoires dits du collège et de l'école de la Calade. Donc, à cet effet, donc, il est nécessaire que le Conseil municipal se prononce pour autoriser M. le maire à signer la convention objet de ces qui définit les obligations des deux parties concernant l'entretien des aménagements paysagers de ce giratoire.
Donc, ce n'est pas, bien évidemment, une décision exceptionnelle. Hein. C'est chaque fois comme cela que ça se passe avec le département. Donc, avez-vous des questions sur ce point-là? Monsieur Villon, ça vous convient? Parce que c'est important pour vous. C'est tellement proche de votre maison que vous allez voir si c'est bien entretenu. Hein. On vous met en charge de ça. Hein. Bon. Donc, je soumets à votre délibération de m'autoriser à signer la convention avec le Conseil général de Vaucluse relative à la prise en charge par la commune du Thor de l'entretien des aménagements paysagers du carrefour giratoire entre la RD 900, la RD 98 et l'arrêt de bus situé à proximité. Donc, y a-t-il des abstentions, des oppositions? Donc, merci pour les gens des Vignères. Donc, la délibération suivante traite de la convention avec le théâtre de Cavaillon et la scène nationale. Donc, je demande à Marie-Hélène Biel, en charge de la culture, de bien vouloir nous la présenter.
Alors déjà, pour ceux qui ne le savent pas, la scène nationale a pris un autre nom et depuis le 5 septembre, elle s'appelle la Garance, depuis le 5 septembre 2014. Elle a aussi choisi un nouveau logo. Voilà, donc depuis 2012, la commune a signé une convention triennale de partenariat avec la scène nationale pour la mise en place sur la commune d'une programmation décentralisée dénommée les Nomades. Chaque année, une convention de programmation annuelle est établie pour préciser les propositions artistiques, les lieux, dates et heures de spectacle. Celle-ci précise également les conditions financières du partenariat. Pour la saison 2013-2014, le bilan des spectacles présentés au Thor est le suivant. Le 5 septembre 2013, courte pièce de la compagnie Johann Bourgeois. C'était un spectacle gratuit. Il a accueilli dans le parc du Bourdi 102 spectateurs en séance publique. Le 18 janvier 2014, Dambé, de la compagnie MIC, c'était du jazz, a accueilli à la salle des fêtes 60 spectateurs en séance publique. Le 31 mars 2014, Les Agricoles, de Catherine Zambon, a accueilli à la salle des fêtes 76 spectateurs, toujours en séance publique. Et enfin, le 11 juin 2014, Trilogie, avec le corps de la Plana, qui a accueilli à l'église Sainte-Marie de Touzon, en copartenariat avec l'association pour le site de Touzon, 92 spectateurs en séance publique. Ce qui fait au total 330 spectateurs qui ont pu profiter de ce partenariat, soit 87,7% de public attendu. Pour mémoire, le taux de fréquentation de la saison 2012-2013 avait été de 78,9%. Donc cette année, puisque c'est la dernière année, nous avons pour la saison 2014-2015 des spectacles qui sont les suivants. Le 19 février 2015 à 20h30, Top ou la coupeuse de feu avec la compagnie des Lumas, théâtre, ce sera à la salle des fêtes, donc c'est du théâtre. Le 26 mars 2015 à 20h30, Quand m'embrasseras-tu avec la compagnie Brozzoni, c'est un spectacle poétique et musical en copartenariat avec le sonographe et ça se passera dans la salle du sonographe. Et le 20 mai 2015 à 21h, Sganarel ou la représentation imaginaire avec la compagnie Nomna, théâtre de Tréteaux, donc c'est dehors, espérons qu'il fasse beau, place du fer à cheval et éventuellement, s'il pleut, on ira à la salle des fêtes. La participation de la commune du Thor à la programmation nomade de la saison 2014-2015 s'établit à 14 555 euros répartis en deux versements, 4 800 euros au plus tard le 1er décembre 2014 et 9 755 euros au plus tard le 30 mars 2015. Je vous prie de bien vouloir en délibérer.
Bon, donc c'est une convention qu'on a attendue assez longtemps, puisque comme vous le voyez, les choses sont déjà bien avancées, mais bon, ils ont eu quelques modifications qui font qu'ils nous ont adressé cette convention tardivement. Donc y a-t-il des questions ? Non ? Donc je vais vous proposer d'en délibérer et de m'autoriser, soit moi-même, soit l'adjointe déléguée à la culture, à signer la dite convention annuelle de partenariat qui définit les programmes, les lieux, les dates et les conditions financières pour la saison 2014-2015. Autoriser le versement au Théâtre de Cavaillon Scène Nationale, avec son nouveau nom, donc de 4 800 euros, avant le 1er décembre 2014. Et enfin, d'autoriser le versement au Théâtre de Cavaillon Scène Nationale de 9 755 euros avant le 30 mars 2015. Et dit que les crédits nécessaires sont déjà inscrits au budget ou seront inscrits au budget 2015. Donc, y a-t-il des abstentions ? Des oppositions. Donc, merci bien. Donc, le point suivant traite de l'attribution d'une subvention exceptionnelle au centre d'animation. Alors, vous le savez, d'une façon un peu générale, donc la mairie soutient les associations pour un accompagnement dans la mise en œuvre et le développement de leurs activités et a donc un financement qui est adapté d'une part pour leur fonctionnement et d'autre part pour les actions exceptionnelles qui concourent au développement de leurs activités habituelles. Donc pour ces dernières, l'aide est attribuée en priorité aux projets qui s'appuient sur les valeurs de solidarité qui cherchent à apporter des réponses à la pauvreté et à l'exclusion. De même, les projets doivent contribuer concrètement à l'animation de la commune. Et c'est vraiment ce que nous encourageons. Et bien sûr, à ne pas nuire ni à l'environnement, ni à avoir un impact négatif sur la cohésion sociale. Donc, il faut savoir que par délibération du 18 février 2014, une subvention de 2 800 euros a été attribuée à l'association Centre d'animation, dont 1 000 euros destinés à l'organisation de la fête du hameau de Touzon, qui s'est déroulée le 1er mai, puisque, par délégation, c'est cette association qui a géré cette fête du hameau de Touzon. Donc je précise d'ailleurs qu'elle s'est très bien déroulée, avec un record de participation. Même ils ont été un tout petit peu débordés pour les bancs, et faire asseoir les gens, etc. Donc c'est signe que dans ces petits hameaux, il peut y avoir une vie et vraiment un intérêt. Malheureusement, vous le savez peut-être, que dans la nuit précédant cette manifestation, l'association qui avait réalisé son stock, qui avait tout préparé, a été victime d'un vol dont le montant du préjudice s'élève à un peu plus de 600 euros. Déduction faite donc du remboursement de son assurance, 420 euros restent à la charge du centre d'animation. Et donc, après avoir étudié ce point et discuté avec le président, et donc, afin de limiter les difficultés rencontrées, je propose d'octroyer une subvention exceptionnelle qui est égale au montant du préjudice qui reste à la charge de l'association, c'est-à-dire un montant de 420 euros. Donc, j'ai estimé que leur investissement, ce qu'ils faisaient par ailleurs, si vous voulez, dans la commune, pouvait nous permettre de leur donner le petit coup de main qu'il fallait pour leur permettre de passer, je dirais, ce cap un peu difficile. Donc, y a-t-il des questions sur ce point-là? Des interrogations? Bon. C'est Eliane qui devait lire le document. Voilà. Donc, je présente mes excuses auprès d'Eliane. Je sais que le maire, t'entends, il a un peu d'enthousiasme. Bon. Donc, je soumets à votre délibération ce vote. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Donc, merci. Et merci au centre d'animation pour son investissement. Je m'en veux, là. Bon, notre dernière délibération traite de quelque chose qui est habituel, c'est la prise en charge des fonctionnements des écoles publiques des communes qui sont extérieures au TOR et pour lesquelles il y a des enfants de la commune qui vont suivre des cours. Et donc là, c'est Marie-Hélène Biel qui va vous commenter cette délibération.
Dommage. Bien oui, comme vous le savez, les communes ont la charge d'assurer le fonctionnement des écoles publiques du premier degré. Elles sont tenues de participer financièrement à la scolarisation des enfants dans les écoles publiques situées en dehors de leur territoire dans les cas que nous n'allons pas énumérer parce que bien évidemment c'est toujours la même chose. Donc le montant de la participation est normalement fixé par accord entre les communes et bien évidemment il est signé une convention. Cette entente est formalisée avec la commune de Lille sur la Sorgue depuis 2009. La commune de Lille a sollicité la commune du Thor en août 2014 pour la signature de la convention constatant la répartition des charges pour l'année scolaire 2013-2014 et elle concerne 3 élèves taurois accueillis dans les écoles élémentaires de Lille. Le conseil municipal de Lille, par délibération du 1er juillet 2014, a fixé à 1564,58 euros par élève en élémentaire et 2294,58 euros en maternelle la contribution des communes de résidence. En conséquence, la participation de la commune du Thor s'élève à 4692,54 euros.
Voilà. Donc, c'est quelque chose d'assez habituel. Je vous précise que ça se produit aussi en sens inverse, que nous pouvons accueillir des enfants d'autres communes. Et bien évidemment, nous leur adressons des factures et leurs conseils municipaux sont amenés à délibérer. Des questions sur ce point? Non. Donc, je vous propose d'accepter de participer aux frais de fonctionnement des écoles publiques de la commune de Lille-sur-la-Sorgue. En fonction du nombre d'élèves domiciliés au TOR et scolarisés dans cette ville, et que vous m'autorisiez, ou l'adjointe déléguée aux affaires scolaires, à signer la convention annuelle annexée à la présente délibération, qui fixe cette participation de la commune pour l'année scolaire 2013-2014. C'est bien 2013-2014, c'est pas 2013-2014, donc c'est du rétroactif, à 4692,54 €. Donc, il y a des abstentions, des votes contre. Donc, je vous en remercie. Donc, ce conseil municipal est terminé. Je voulais juste vous donner deux informations. Donc, dans le conseil municipal du mois de novembre, nous débattrons de ce qu'on appelle le débat d'orientation budgétaire. Donc, c'est la prise en compte, si vous voulez, des grandes données économiques de la commune, bien évidemment, mais des données économiques extérieures à la commune, que sont, par exemple, le taux d'inflation, les subventions, puisque le budget national devrait être voté à ce moment-là, les subventions que nous pourrons obtenir, Voilà, donc c'est un moment qui est important puisqu'il s'agit d'un vrai débat, et c'est ce débat-là qui fixe les grandes orientations qui préfigurent les budgets de l'année suivante, de 2015. Et enfin, le conseil municipal du mois de décembre sera consacré au vote du budget, qui est aussi un moment important puisque vous savez que le budget, c'est l'acte réellement fondateur d'une politique mise en œuvre par une municipalité. Donc aujourd'hui, nous sommes gestionnaires d'un budget qui a été voté préalablement, et on essaie de le gérer le mieux possible, mais l'année 2015 sera le premier budget, si vous voulez, que nous allons voter pour la mandature. Et dans ce budget-là, bien évidemment, des orientations importantes seront prises en matière de fonctionnement et aussi en matière d'investissement. Voilà. Et puis, je voulais vous donner une dernière petite information. Pas mal de Taurois, mais aussi beaucoup de conseillers municipaux m'ont sollicité en me disant qu'est-ce qui va se passer avec la boulangerie qui est fermée depuis longtemps. Et il est vrai que, même si c'est pas de la responsabilité directe du maire, je trouvais très négatif le fait que nous ayons plus que deux boulangeries en fonctionnement, plus Intermarché, bon, avec quelquefois des difficultés d'approvisionnement, voilà. Donc je m'en suis préoccupé et je vous informe que normalement, si tout se passe bien, le 28 septembre prochain, l'acte de cession et de reprise de la boulangerie devrait être signé. Et par un boulanger qui est de pas très loin d'ici, qui est très connu, qui a fait du pain de très grande qualité. Il y a même des Taurois, je sais, qui se déplacent dans cette commune-là pour aller acheter du pain. Donc voilà, donc j'espère que tout va bien se passer. A priori, la banque a donné son accord. J'ai eu une ou deux interventions à faire, mais... Et donc, dès la reprise, dès la signature, on devrait avoir une boulangerie qui ressuscite dans le centre-ville, et je pense que c'est important. Voilà, cette petite communication en aparté du conseil municipal que je voulais vous faire. Je vous remercie tous et je vous donne rendez-vous au prochain conseil municipal du mois d'octobre, dont la date est le...
Mardi 14 octobre.
Mardi 14 octobre, comme c'est marqué sur le panneau. Voilà. Merci à chacun et bonne soirée. Tu me pardonnes?
Je sais, mais il faut que je me dise.
Attends,
je
vais te dire.
Rassure-toi, il m'a fait pareil.
Hein. C'est pourquoi
je le
fais. Ouais, si tout à l'heure, il me regardait, il était parti. Et je ne sais pas, je suis parti.
Je m'étais préparé. Ouais, je voyais que la tête. Par contre, jeudi matin, tu rencontres David, le directeur
de Christophe. Ah oui, 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 oui. Christophe David.